Chapitre 4. Hoël vint aux Trois Chênes un après-midi où, précisément, l'une se trouvait au village. Madame Cibreux et sa fille la câblèrent des plus flatteuses amabilités. D'autres visiteurs étant apparus sur ces entrefaites, on le présenta avec orgueil. Lui s'esquiva bientôt. Tout cet encens ne lui montait pas au cerveau. Le souvenir des affronts infligés au petit Hoël pauvre lui servait d'antidote contre la griserie de la gloire. Sur le chemin, en revenant, il croisa Luz qui rentrait. Ils échangèrent quelques mots, puis continuèrent chacun leur route. En son cœur, Hoël emportait la chaude clarté de ses beaux yeux noirs auxquels il rêvait souvent. Le 3 janvier, il reçut une carte ainsi libellée. « Cher monsieur, nous tirons les rois jeudi. Voulez-vous bien nous donner la très grande satisfaction d'être des nôtres ? Tous nos amis seront heureux de vous complimenter, car vous êtes vraiment une de nos gloires françaises. Ce sera oui, n'est-ce pas ? Veuillez croire au sentiment bien sympathique d'une admiratrice de votre rare talent, G. Cibreux. » Hoël se mit à rire, puis il murmura « Toutes les fêtes des rois ne se ressemblent pas. » Un pâle soleil d'hiver entrait dans la grande chambre aux meubles vermoulus où le jeune homme était assis devant une lourde table de chêne. Il frôlait les cheveux blonds, le visage à la bouche railleuse, les mains fines qui froissaient machinalement la carte grise et parfumée. Hoël songeait. « Irai-je ? N'irai-je pas ? Oui, j'irai à cause d'elle. » Il évoqua aussitôt l'image d'une petite fille aux boucles sombres, aux beaux yeux rieurs et doux, qui, autrefois, l'avait entraînée aux Trois Chênes, qui l'avait fait asseoir près d'elle. Roi, il l'avait choisie pour reine. « Chère petite Luz, déjà si bonne, si délicate. Comme elle avait senti l'humiliation infligée au pauvre Hoël. Comme, aussi, elle avait bien su lui témoigner sa reconnaissance. Tandis que les autres... » Hoël eut un geste de dédain et jeta la carte sur la table en murmurant « C'est bien pour elle seulement que j'irai. » Luz, secrètement, jugeait la circonstance mal choisie pour une invitation à M. de Pendegui. Une autre fête des rois, dans cette même demeure, avait dû laisser un souvenir désagréable au jeune homme. Cependant, elle s'abstint de toute réflexion à ce sujet. Sa tante et sa cousine, depuis Noël, se montraient peu aimables à son égard. Et il lui venait à l'idée qu'elles les gênaient, qu'elles attendaient son départ avec impatience. Pourquoi ? Luz l'ignorait. Mais cette pensée lui devenait très pénible et elle avait résolu de chercher un prétexte pour avancer ce départ. Les Cibreux, ce jeudi-là, avaient réuni leurs relations intimes et les deux salons résonnaient du bruit des voix et des rires quand Noël fut introduit. Aussitôt, Madame Cibreux et Claire l'accaparèrent. Toutes les attentions, tous les sourires étaient pour lui. Albert, très aimable, très empressé, lui présentait ses amis. Monsieur de Pendegui accueillait sourires et compliments avec une parfaite courtoisie de grand seigneur. Il causait aimablement avec tous. Mais son regard se dirigeait sans cesse vers Luz, vêtue de blanc, si jolie, si simplement gracieuse, et qui le paraissait d'autant plus dès qu'on la comparait à sa cousine, minaudière et sans charme, en dépit d'une toilette élégante inaugurée aujourd'hui. Comme autrefois, le gâteau des rois fut servi dans la salle à manger. Claire vint le présenter sous une serviette à chaque convive. Quand chacun fut servi, elle s'assit à la droite de M. de Pendegui, place qu'elle s'était réservée. Luz se trouvait au bout de la table, entre son cousin et un petit jeune homme prétentieux qui l'horripilait. Elle regardait Hoël en pensant « Aura-t-il encore la fève cette fois ?» La voix calme du jeune homme s'éleva. « Je l'ai !» Entre ses doigts, comme jadis, il montrait la fève. Albert cria « Vive le roi ! Vive le roi !» Madame Cibreux dit avec un aimable sourire « Eh bien, monsieur, choisissez votre reine. » Claire glissait vers lui un regard très doux, mais il se leva et, les yeux tournés vers Luz, demanda « Mademoiselle, voulez-vous bien accepter comme autrefois ?» Une délicate rougeur montait aux joues de Luz. La jeune fille répondit avec un sourire « Mais très volontiers, monsieur. » Il alla vers elle, mit la fève sur son assiette. Comme il faisait un mouvement pour regagner sa place, la femme du notaire, Madame Brie, qui détestait les cibreux et aimait beaucoup l'huile, fit observer « Mais le roi doit s'asseoir près de la reine. Albert, il faut céder votre place à Monsieur de Pendegui. » Madame Cibreux dit d'un ton sec « Ce dérangement est inutile. Nous boirons tout aussi bien ainsi à la santé de la reine et du roi. » Une gêne passait sur la réunion. Parmi ceux qui étaient là, plusieurs se trouvaient à la fête des rois où Albert et Claire avaient si bien témoigné leur mépris enfantin pour celui auquel, aujourd'hui, ils prodiguaient leurs adulations. Monsieur de Pendegui n'avait-il pas voulu donner une leçon discrète à ses hôtes? Plusieurs le pensaient. Et la déconvenue de Madame Cibreux et de Claire réjouissait les bonnes amies, déjà fort jalouses de ce que le jeune châtelain de Kerlozo, qui n'avait fait par ailleurs aucune visite, fût entré en relation avec les habitants des Trois Chênes. Comme on revenait au salon, Madame Brie demanda « N'allez-vous pas nous chanter quelque chose, Mademoiselle Luz? Vous savez que tous nous aimons tant votre belle voix. » D'autres personnes appuyèrent. « Oh oui, oui, chantez, mademoiselle !» Luz dit avec une souriante simplicité « Mais si cela peut vous faire plaisir, je suis toute prête. » Claire intervint. « Tu avais mal à la gorge dimanche. »« C'est tout à fait passé maintenant. M'accompagnes-tu, Claire ?» Mademoiselle Cibreux répondit oui sans empressement. Il lui déplaisait fort que sa cousine, en plus de sa beauté, se fît encore remarquer par sa voix. Aussi s'essaya-t-elle, traîtreusement, à la gêner par un accompagnement fantaisiste. Ce fut en vain. Luz possédait parfaitement le morceau choisi et elle le chanta à merveille. Quand elle se tut, ce furent d'enthousiastes félicitations. Le petit jeune homme prétentieux déclara d'un ton d'oracle « Épatant ! C'est épatant, une mine d'or dans le gosier. » Un autre affirma, « On n'entend pas si bien à l'opéra. » Albert, en tirant sa moustache maigre, confia à Madame Brie qu'il avait engagé sa cousine à entrer au théâtre où elle aurait des succès fous. La notairesse s'exclama d'un ton indigné, « Eh bien, ils sont jolis vos conseils. Heureusement, je suis certaine que Mademoiselle Luz n'a aucune envie de les suivre. » « Bah, cela viendra peut-être. Elle y gagnerait une grosse fortune. »« Il y a autre chose que l'argent dans la vie, mon garçon. » Et, levant les épaules, elle s'avança vers Luz. En ce moment, M. de Pendegui se trouvait près de la jeune fille. Il la complimentait chaleureusement en attachant sur elle un regard charmé. Luz, émue et rougissante, était délicieusement jolie. Madame Brie glissa un coup d'œil vers Madame Cibreux et Claire et, voyant les visages contractés, l'irritation à peine voilée du regard dirigé vers Luz, elle pensa « Il y aura du grabuge de ce côté. Monsieur de Pendegui trouve cette charmante Luz fort à son goût. Mais la cousine s'est mise dans l'idée que ce brillant parti était pour elle. Alors, gare !» Pendant le reste de l'après-midi, O.L. demeura presque constamment près de Luz. Tous eurent l'impression qu'il se posait en prétendant. Courtoise et aimable pour les autres jeunes filles qui se trouvaient là, il n'avait en réalité d'attention que pour Mademoiselle Talmay. Dans le cœur de Luz s'insinuait une joie profonde et ses yeux souriaient, s'éclairaient d'une vive et merveilleuse lumière, tandis qu'elle écoutait O.L. Madame Brie songea avec satisfaction « Allons, voilà un bon petit mariage qui se prépare !» Quand leurs invités partis, les habitants des Trois Chênes se retrouvèrent seuls, Luz dit gaiement « Cette petite réunion a été tout à fait réussie. Je crois que nos hôtes sont partis enchantés de leur après-midi. » Un silence glacial lui répondit d'abord. Puis Claire ricana. « Toi, en tout cas, tu peux en être satisfaite. Tu as assez bien manœuvré pour cela. » « Moi, j'ai... » Luz regardait sa cousine avec stupéfaction. Claire, les yeux mauvais, la bouche crispée, s'avança de quelques pas. « Tu veux faire l'innocente? C'est inutile avec nous. Mais je te préviens que je ne me laisserai pas enlever ainsi celui que j'ai choisi. » « Voyons, Claire, que racontes-tu? Madame Cibreux intervint de sa voix sèche. Du moment où Claire t'avait appris qu'elle songeait à M. de Pindegui, tu aurais dû agir avec plus de circonspection, ne pas faire la coquette. J'ai fait la coquette ? Ah, par exemple ! Luce jetait cette protestation d'un ton vibrant. Son regard fier se posa tour à tour sur sa tante, sur Claire, sur Albert qui riait sournoisement. En vérité, je ne comprends pas. Veuillez m'expliquer, ma tante, ce que signifie une telle accusation. N'exagérons rien, mon enfant. Il se peut que tu n'aies pas du tout songé à éclipser ta cousine. Mais enfin, tu aurais dû te souvenir qu'elle avait exprimé devant toi le désir de voir s'arrêter sur elle le choix de M. de Pindegui. Luz, emportée par la vivacité de sa nature, dit d'une voix frémissante « Vous êtes injuste, ma tante, et vous le savez bien. Mais pour vous ôter toute inquiétude, je crois préférable de répondre, dès maintenant, à l'invitation que m'a adressée Mademoiselle Élise. Dès demain matin, je partirai pour me rendre chez elle et j'attendrai là l'époque du voyage de mon père en France. » Madame Cibreux protesta sans empressement. « Rien ne presse. » Mais Claire intervint. « Elle a raison, cela vaut beaucoup mieux. » « Je ne te garderai pas rancune, Luz, car je crois bien, comme le dit maman, que tu ne songeais pas du tout à me supplanter. » Le regard jaloux dirigé vers sa cousine démentait ses paroles. Luz eut un sourire d'ironie un peu dédaigneuse en ripostant « Tu dois en être persuadée, en effet. » Quand elle se retrouva seule dans sa chambre, elle s'assit près de la cheminée où brûlaient des souches de chêne et appuya sa main contre son front. Ses yeux se remplissaient de larmes. Toutes ses tristesses d'orpheline se ravivaient devant l'injustice de Madame Cibreux et de Claire. Était-ce sa faute, cependant, si M. de Pindegui lui témoignait plus d'attention, plus de sympathie? Aurait-il fallu qu'elle lui tournât le dos? Elle seule avait été bonne pour lui autrefois. Il s'en souvenait, voilà tout. Pour éviter d'autres scènes de ce genre, elle n'avait qu'une chose à faire, partir. Il lui en coûtait beaucoup, cependant. Elle aimait ce pays et elle se réjouissait, en outre, de suivre les progrès de la restauration de Kerlozo. Puis, elle aurait été satisfaite de causer encore avec Hoël, si intéressant, si discrètement aimable. Sa main trembla un peu contre son front et une larme, glissant le long de sa joue, tomba sur sa robe blanche.